Sud Radio, édition spéciale.
Vous n'aurez pas ma haine. Vendredi soir, vous avez volé la vie d'un être d'exception, l'amour de ma vie, la mère de mon fils, mais vous n'aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir, vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur. Alors non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr, vous l'avez bien cherché pourtant, mais répondre à la haine par la colère, ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que j'aie peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité ? Perdu. Même joueur joue encore, je l'ai vue ce matin. Enfin, après des nuits et des jours d'attente, elle était aussi belle que lorsqu'elle est partie ce vendredi soir, aussi belle que lorsque j'en suis tombée éperdument amoureux il y a plus de 12 ans. Bien sûr, je suis dévastée par le chagrin. Je vous concède cette petite victoire, mais elle sera de courte durée. Je sais qu'elle nous accompagnera chaque jour et que nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres auquel vous n'aurez jamais accès. Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. Je n'ai d'ailleurs pas plus de temps à vous consacrer. Je dois rejoindre Melville qui se réveille de sa sieste. Il a 17 mois à peine. Il va manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons jouer comme tous les jours et toute sa vie. Ce petit garçon vous fera l'affront d'être heureux et libre, car non, vous n'aurez pas sa haine non plus. C'était le message adressé par Antoine Léris, le mari de l'une des victimes de vendredi, aux terroristes qui ont pris son amour.
Sud Radio, édition spéciale.
Bonjour à tous, nous sommes très touchés par ce qui vient de se passer à Paris et c'est le cœur lourd que nous prenons la parole cet après-midi. Il est évident que pour nous tous, il est difficile de parler du quotidien dans un moment où ce quotidien nous semble tellement abstrait, où notre quotidien est l'incompréhension, la peur ou la colère. Nous avons donc décidé toute cette semaine de vous donner la parole. Aujourd'hui, nous allons tenter de savoir comment continuer à avancer après ce qui s'est passé ce week-end. Vous pouvez venir nous rejoindre en direct si vous souhaitez simplement partager avec nous vos sentiments. Le numéro, vous le connaissez, 0 826 300 300. Et donc, on a tout de suite un premier auditeur. Il s'agit de Morande. Bonjour Morande, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour Isabelle.
Merci bonjour d'être avec nous. Ouais. Merci d'être avec nous, Morande. Alors vous, vous n'avez perdu personne vendredi dernier, mais vous êtes très en colère, je crois, par ce qui s'est passé.
D'abord, je tiens à dire que ce message que vous avez lu concernant cette victime, cet homme, cet enfant qui a perdu sa femme et sa maman, franchement, c'est une douleur. On ne peut pas plus exprimer que ce que vous venez de lire, la douleur que nous ressentons. Moi, je tiens à dire à ce monsieur... J'en ai
Antoine.
Franchement, Antoine. Je tiens à dire, Antoine, je suis moi-même musulman et je ne partage pas. Je suis français, républicain, laïque. Je suis musulman. Je pratique ma foi dans une sphère privée et je peux vous assurer que l'islam, c'est l'amour. C'est pas du tout ce qui vient de se passer. Je veux exprimer à François, à Antoine, excusez-moi. Je veux exprimer à Antoine vraiment toute ma douleur. Je veux partager avec lui cette douleur parce que moi-même, mon fils n'était pas là et franchement, je me suis inquiété. Et comme tous les Français, aujourd'hui, nous sommes atteints dans notre chair, au plus profond de notre être. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, moi, je réaffirme, je demande des comptes. Je veux que toutes les victimes, toutes ces innocentes victimes qui aujourd'hui ont payé de leur vie, c'est un sacrifice. C'est un énorme sacrifice. Je veux que nos politiques rendent des comptes. Parce que, oui, aujourd'hui, on fait un Versailles, on parle de d'états généraux, on parle de d'unité, mais on ne peut pas se contenter de ça. On doit rétablir la vérité. Ce radicalisme qui tout d'un coup, frappe de la manière la plus abominable, ne peut pas s'expliquer comme ça. Il faut qu'on nous dise... Comment ce radicalisme s'est forgé? Comment, lorsqu'on mène des politiques en direction du Qatar, en direction de l'Arabie Saoudite, porteur du wahhabisme, qui finance ces terroristes, ce n'est pas l'islam. Aujourd'hui, les Qataris nous proposent d'éponger notre dette financière en échange de leur remettre à disposition les banlieues. Est-ce qu'on mesure réellement ces propos? Est-ce qu'on le mesure? Où va notre démocratie? Nous, les Français, la France, sommes porteurs d'un Graal, celui des droits de l'homme. Mais les droits de l'homme sont universels. Universels. Et nous n'avons pas le droit, en tant que État républicain démocratique français, de porter le fer et la mort dans d'autres pays sous prétexte que nous avons des intérêts financiers. Ce n'est pas une guerre de religion, ce n'est pas une guerre de civilisation, ce sont simplement des conflits d'intérêts. Quand on voit M. Sarkozy qui accueille M. Kadhafi, qui accueille M. Bachar el-Assad, dictateur, dont la campagne aujourd'hui est avérée, a été financée par M. Kadhafi, et qu'ensuite on détruit ces États. Comment voulez-vous que nous ne faisions pas venir des loups qui nous tuent?
On entend vraiment beaucoup de colère, Mohand, effectivement, dans ce que vous dites. Comment...
Ma colère ne ramènera pas toutes ces victimes, mais nous n'avons pas le droit vis-à-vis de toutes ces victimes de nous taire. Nous sommes des républicains démocrates. Nous devons dénoncer les agissements de nos hommes politiques. C'est intolérable.
Mohand, alors c'est vrai que vendredi soir, il y a eu beaucoup de victimes et beaucoup de personnes comme Antoine qui ont dû faire face à ce drame. On est avec Jean-Pierre Vouche. Bonjour Jean-Pierre, bienvenue sur Sud Radio.
Arrête.
Oui, bonjour. Qui est en ligne là?
Isabelle Bresse.
Ah, Isabelle Bresse.
Sur Sud Radio.
Juste un petit mot pour vous dire que je cherchais à vous contacter, il faut qu'on se voit à Paris en urgence.
Ah bah d'accord, ok, très bien.
Voilà, je sors de M6 où j'ai fait un reportage et j'ai parlé en effet de là où nous en étions au niveau...
Alors pour nos auditeurs, Jean-Pierre, vous êtes psychologue spécialiste des chocs post-traumatiques et donc c'est vous qui vous occupez de nombreux rescapés.
Quelque chose de grave, de solennel.
Oui, écoutez, depuis mon intervention, j'ai démarré à 21h45, 22h au Bataclan.
Vendredi.
Ouais, vendredi, donc j'ai travaillé quasiment non-stop, hein. J'ai dormi 3 heures, ça a été un luxe cette nuit. Logiquement, je suis à peu près à 180 personnes en suivi psychologique à domicile ou dans des consultations de centres municipaux sur plusieurs villes et Paris. Ce soir, on fait un débriefing sur les deux équipes des restaurants appartenant à Grégory Rebenberg qui a perdu sa femme et 9 personnes de son personnel. Et rien qu'à la belle équipe, il y a eu 19 morts dans son restaurant. Donc je couche chez lui depuis samedi pour accompagner Tess, son enfant de 8 ans, qui a perdu donc sa maman, 40 ans.
Tess qu'on a entendu il y a quelques jours, hier matin, je crois.
Elle est passée sur Europe 1 avec un témoignage très très fort en ma présence. Et en effet... actuellement, je l'ai raccompagnée à l'école pour qu'elle reprenne les activités et puis rencontrer les collègues pour qu'ils assurent la cellule d'écoute pour les enfants. Parce que rien que dans sa classe, il y avait 3 mamans qui étaient mortes ce week-end. Et la classe d'à côté, il manquait un père également. Voilà. Donc, en ce moment, on s'occupe des enfants, des survivants, des gens qui sortent. J'accueille Chloé tout à l'heure qui était blessée par balle et qui va venir nous rejoindre dans notre débriefing collectif du staff qui travaille avec Grégory. On va faire une première partie concernant les émotions pour accueillir les pensées, les émotions après l'attentat et au moment de la scène. Et puis la deuxième partie, c'est comment on va rebondir, quand est-ce qu'on va réouvrir les établissements pour que l'activité reprenne, parce qu'on a un double choc. Ils ont été impactés par les balles et puis maintenant il y a les conséquences, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont au chômage, il y a les gens qui ne peuvent plus payer les loyers, il y a des couples qui sont en tension et qui risquent aussi malheureusement de flancher parce que on n'arrive pas à gérer des stress post-traumatiques avec des gens qui sont encore très confus, stressés, hyper nerveux et qui pètent des câbles et qui peuvent entraîner pour les personnes qui les accompagnent une incompréhension et malheureusement des ruptures.
Combien est-ce que vous êtes aujourd'hui pour suivre justement toutes ces personnes qui ont besoin de votre aide?
De mon équipe, j'étais tout seul et j'étais d'ailleurs le premier psychologue sur place. Et à tel point, c'est qu'il a fallu que j'aide des gens du GIGN qui avaient des soucis, blessés, les gens du SAMU de Paris, ensuite la protection civile. Voilà, et j'étais par terre auprès des civières, des premiers blessé par balle qui sortait du Bataclan, prêt à embarquer dans les ambulances. Et donc j'ai fait les premières assistances psychologiques par terre, allongé par terre auprès des blessés qui étaient sous oxygène et avec les perfusions. Voilà. Donc ça, ensuite, je me suis occupé des personnes qui étaient perdues, qui avaient perdu des membres et qui ne savaient pas où ils étaient. Donc je donnais de l'info. Et puis j'ai raccompagné un papa aussi qui devait partir annoncer à ses fils de 11-13 ans que la mère était morte, qu'elle lui a lâché la main au moment de l'assaut et qu'il a entendu des rafales et qu'il n'a pas revu sa femme, quoi. Voilà, donc c'est des trucs très poignants et on a beaucoup de travail. Les équipes de la CUMP de Paris et même de Lille sont venues renforcer. Moi, j'ai fait le premier CUMP. Moi, je suis envoyé par la mairie de Gennevilliers, hein, donc le maire Patrice Leclerc, donc Front de Gauche, a décidé d'envoyer mon équipe, dont je suis le responsable. Mais c'était un moment de vacances, donc j'ai pu mobiliser dimanche 6 personnes de mon équipe sur 11. Et puis, je pense que les CUMP, ils ont un peu le même souci. C'était un grand pont, et donc je les ai vus arriver 4 heures après. Ils ont pris le relais, ils m'ont aidé. Et moi, quand je suis parti à 6h30 samedi matin, j'avais une équipe de Lille, qui un gars que j'avais déjà rencontré, un psychiatre qui avait travaillé avec moi sur le crash Concorde. Voilà, donc les équipes sont bien mobilisées, s'organisent. J'ai fait un point ce matin avec mon directeur municipal santé, le docteur Alain Thirode, qui a décidé donc de démultiplier les moyens suite à l'attentat, et on s'est aperçu que ce que j'avais demandé il y a 2 ans de mettre en place une cellule avec un permanent, qu'il fallait peut-être, j'avais raison, mais pour des moyens financiers, on l'avait pas fait. Donc là, il y a une levée un peu de tout ça, et donc je dois faire une formation de 60 personnes, probablement le 3 décembre, pour être opérationnel pour les suites de cet attentat et des prochains qu'on nous attendons, parce que nous pensons qu'il va y avoir à nouveau des répliques et il faut que nous soyons prêts. Voilà, on s'organise.
C'est-à-dire, dans ce que vous nous racontez, on a l'impression de vivre un scénario de guerre, quoi. On a l'impression que vous nous parlez d'un pays lointain, et c'est ici, quoi.
Ça, c'est vous qui parlez, c'est la population. Nous, on n'a pas le sentiment d'être en guerre, on est juste à couvrir des événements majeurs, graves, mais les personnes n'ont pas le sentiment d'être en guerre. On n'a pas cette peur-là, les victimes non plus. C'est plutôt la population, ou voire même peut-être les pompiers, d'autres qui sont, eux, peureux de ça. Mais les gens avec qui je suis, les blessés, ils ne parlent jamais de guerre ou de vengeance. Ils ne parlent même pas des personnes qui ont été les auteurs. Ils n'existent pas dans leur tête. Ils ont envie de vivre, d'être dans la solidarité, de rebondir et d'être dans une solidarité qui nous permet de tenir, justement, de montrer que là où ils voulaient nous atteindre, ils nous ont pas atteints, parce que on est intact et debout et pas à genoux.
Comment, dans quel état d'esprit sont les personnes qui ont assisté et qui ont survécu à ce drame? Et est-ce qu'on se remet un jour de ce genre de drame, justement?
Ça va prendre du temps. Il y a des gens qui sont complètement effondrés, d'autres qui n'ont pas réalisé, d'autres qui, comme par exemple Tess, 8 ans, a bien réalisé et a des bonnes capacités pour rebondir, des capacités de résilience. Pour les autres qui, malheureusement, sont pas encore là ou qui vont décompenser d'un point de vue psychologique en différé dans une semaine, 10 jours, 1 mois, nous sommes les tuteurs de résilience pour les aider à traverser cette épreuve et reprendre un chemin de vie avec un accompagnement psychologique et médical si besoin. Ça va prendre du temps pour certains, ça va durer pour nous. Je sais que je ne vais pas rester une semaine, mais je suis parti, comme pour le crash Concorde, je travaille encore 10 ans après, pars pour une période très longue. La maman de Grégory m'a dit, tu es venu chez nous et tu couches chez nous, tu reçois notre famille. C'est une famille de culture juive et qui est avec une grande famille, comme les mamans juives vous connaissez. Donc il y a 30-40 personnes qui défilent, donc chacun me demande des entretiens de soutien. Et une nuit, elle m'a rappelé, elle m'a dit merci parce que vous nous avez redonné de la force. On était une petite flamme et maintenant on a une grande lumière. J'ai perdu mon garçon il y a 2 ans, je viens de perdre ma belle-fille, mais je suis heureuse. Je dis, ah bon, pourquoi? J'ai gagné un fils adoptif, Nassim, Jean-Pierre Vouche. Vous êtes notre fils maintenant et on sait que vous serez à nos côtés à vie. Et elle a raison, je serai à leur côté le temps qu'il faudra. Ce n'est pas une semaine, ce n'est pas des mois, c'est plusieurs années.
Mmh. Vous nous dites que vous vous occupez de 180 personnes. Comment est-ce que vous faites pour prendre en charge autant de personnes et réussir à les porter
Alors, il y a deux dispositifs, des dispositifs individuels 24 sur 24 que j'assure, et puis des fois je rassemble 100 personnes. Par exemple, dimanche, j'ai fait un debriefing collectif avec 6 de mes collègues, et nous avons pu prendre en charge donc au moins 100 personnes dans un debriefing collectif qui a duré 2 heures. Et donc ça, des débriefings comme ça, on va en avoir ce soir à 21h jusqu'à minuit et demain matin à 8h30. Donc ce soir, je devrais avoir 40 personnes et demain matin, je devrais avoir 25 personnes. Donc on a aussi un travail sur du collectif. À l'issue du collectif, il y a des gens qui font des demandes individuelles. Je les dispatche sur mes collègues, je les oriente parce qu'il y a quantité de collègues psychologues, psychiatres qui m'appellent en me disant on est de bonne volonté, on peut les recevoir dans tout Paris et l'Île-de-France. Donc je suis un peu une gare de triage où j'envoie donc vers mes collègues, l'hôpital Bichat par exemple qui va être une antenne avec un ancien ami qui est donc chef du SAMU, et donc on va s'occuper en effet de se répartir. Quant à moi, j'essaye de prendre le plus grand nombre de personnes, des gens par exemple du Bataclan que j'ai aidé à sortir, la personne n'a pas pu retrouver la force d'aller au travail au ministère de l'Agriculture, je l'ai envoyé sur la CUMT parce que je n'étais pas disponible, il a été donc à la CUMT à la mairie du 11e arrondissement, et en sortant il m'a rappelé, il m'a dit mon médecin me donne un rendez-vous seulement à 19h30, je vais très mal, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai dit écoute bien, j'ai un médecin près de moi, on va t'aider, et il me dit je préfère les entretiens avec toi parce que toi t'es là tout de suite, et là je vois que les gens de la CUM, bon ils sont gentils mais c'est pas la même chose, donc je dis écoute ok je te reprends, donc c'était un de plus que j'ai récupéré donc, dans la journée. Là je vais rentrer dans le garage parce que j'ai une équipe de CNN qui vient tourner et il faut que je sois disponible en anglais pour eux. Voilà.
D'accord. Vous pouvez être avec nous la deuxième heure ou vous n'êtes plus du tout disponible?
C'est quand, la deuxième heure?
À partir de 16h.
Faut me rappeler avant, mais ce soir, je pense, j'ai 30 consultations.
Bon, on vous laisse travailler. En tout cas, Jean-Pierre, merci mille fois de nous avoir consacré quelques temps. Et je vous rappelle, donc, puisque vous vouliez me parler, je ne savais pas, je vous rappelle tout à l'heure pour qu'on en parle. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous, en tout cas, au moins une petite demi-heure. Et merci Amande également, cet auditeur qui vient de témoigner. Merci mille fois d'avoir été avec nous. On continue cette émission dans quelques instants avec un autre témoignage, celui de Kaina, et puis également l'aumônier musulman qui est imam à la prison de Fleury-Mérogis, Mohamed Bouana Mkoubou, qui bien sûr est très ébranlé aussi par les événements de vendredi soir. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, édition spéciale.
Et toute cette semaine, nous avons décidé de vous donner la parole. Aujourd'hui, on va tenter de savoir comment continuer à avancer après ce qui s'est passé ce week-end. Évidemment, vous pouvez venir nous rejoindre en direct si vous souhaitez simplement partager avec nous vos sentiments. On sait que la France entière est sous le choc et même 4 jours après, je pense que c'est pas terminé. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Nous sommes avec Kaina. Bonjour Kaina, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour, merci.
Kaina, je sais que vous avez été très ébranlée aussi par les événements de vendredi soir. Vous avez une petite fille. Alors, racontez-nous comment vous avez vécu ces événements de vendredi soir.
Alors, en fait, il faut savoir que j'ai eu peur pour mon frère qui était sur Paris. Et donc déjà, parce que moi, vendredi, je dormais. Et en fait, en me réveillant, j'ai vu mon portable, il y avait des messages. Est-ce que tu as des nouvelles de lui? Plein de choses comme ça. Excusez-moi, je suis émue parce que juste d'y repenser, c'est
ouais.
difficile.
Ouais, je comprends.
Et après, en fait, mon frère m'a rappelé. Je l'ai eu pour me rassurer, pour me dire qu'il avait été dans un restaurant, qu'il était assez loin, mais qu'il était resté au restaurant jusqu'à pouvoir déposer tout le monde chez eux et rentrer chez lui.
Donc fait, vendredi soir, en fait, vous étiez un petit peu malade et vous êtes allé vous coucher de bonne heure, tranquillement. Et puis quand
très tôt, c'est la première fois, j'étais malade, je me suis couchée à 21h.
Ouais.
J'étais pas du tout, à mon réveil, le cauchemar, quoi. J'ai pris une pire qu'une claque,
Vous avez trouvé votre mari? Vous avez trouvé votre mari?
Mon mari qui a gardé les infos, en fait. Et là, qui m'explique la situation, je comprends les messages, donc je rappelle mon frère pour savoir si tout va bien, il me dit qu'il va bien, et là je me mets à pleurer,
ouais.
C'est un choc. Et là j'ai ma petite fille qui me dit, mais pourquoi maman t'es triste? Alors là j'ai eu du mal, quoi lui dire à ce moment-là?
Ouais.
Je lui dis, ça va aller ma chérie. Et là j'ai eu peur de la façon dont j'allais lui annoncer. Alors, j'ai regardé sur Internet comment annoncer une catastrophe, un drame, un acte aussi ignoble fait par des personnes. Alors, j'ai essayé de lui expliquer, voilà, il y avait des méchants qui ont fait du mal, et beaucoup de gens qui sont morts, je lui ai dit le mot, parce que même si elle a 4 ans, c'est qu'elle a mort, qu'elle a sa main au ciel, donc elle sait ces choses-là.
Ouais.
Et après, j'ai essayé de lui expliquer. Je lui ai dit, faut pas avoir peur. Ils viendront pas à la maison. Faut pas que tu t'inquiètes. De toute façon, on va être fort. Et là, elle m'a dit, j'ai pas peur, maman. De toute façon, nous, on est les gentils. Si eux, c'est les gens qui font bobo, c'est des méchants. Et après, je lui dis, et elle m'a dit, on va se battre. Et je lui ai dit, mais comment on va se battre? Tu vas faire quoi? Et elle m'a dit, bon, on va être, moi, je vais chercher mes copains, mais toi, tu vas chercher tes amis. On va tous chercher nos amis et on va leur montrer qu'on est nombreux et qu'on va être très, très forts. Et ça, c'est-à-dire que même dans un moment comme ça, avec un enfant, on est obligé de sourire. Et elle vous redonne l'espoir, parce que dans une telle catastrophe, c'est difficile.
Ouais, surtout compliqué.
Surtout que j'ai été touchée en tant que Française, parce qu'on a attaqué mon pays. Et aussi, on a bafoué ma religion, parce que je m'exprime rarement en tant que musulmane.
Et c'est ça, c'est une question que je voulais vous poser. Effectivement, vous êtes musulmane, vous êtes Française, mais vous êtes de religion musulmane, effectivement. Est-ce que vous vous sentez visée aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression qu'on regarde les musulmans un peu de travers, que tout le monde est mis un peu dans le même sac? Comment est-ce que vous vivez en tant que musulmane cette attaque?
En tant que musulmane, c'est vrai que je suis encore plus touchée parce que c'est ma religion qu'on a bafouée, parce qu'ils ont commis des atrocités au nom de ma religion. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai peur de la stigmatisation, des actes de représailles.
Des actes de représailles, c'est-à-dire en France
qu'on libère une des propos nauséabonds. Je veux dire qu'au moment de Charlie Hebdo, j'ai été, moi, avec ma fille, j'ai été victime de ça. Par exemple, on a été chez un docteur. On était dans la salle d'attente et ma fille, qui est musulmane aussi, a roté tout bête et elle a dit Alhamdoulilah. Et là, il y a une dame qui dit voilà, ils sont partout, faut les renvoyer chez eux. Regardez, même les petits veulent en faire des, ils commencent déjà très jeunes. Voilà, des trucs horribles.
Ouais.
Et là, on se dit qu'à une époque, alors qu'avant, personne n'aurait osé dire ça. Maintenant.
Oui, vous avez l'impression que ça libère une espèce de haine à l'encontre des personnes de religion musulmane. Alors justement, Kaïna, comment faire? Quel message est-ce qu'on peut faire passer? Parce que on a beau le dire et le redire, les terroristes, les islamistes qui ont mis les bombes, effectivement, ne représentent pas les musulmans. Et c'est vrai que une personne qu'on va avoir dans la deuxième heure, qui s'appelle Katia Clarence, qui est grand reporter, le lendemain des événements de vendredi, a posté sur son compte Facebook une image du Ku Klux Klan qui disait que personne n'a jamais pensé que ces gens-là étaient représentatifs de la religion catholique. Et donc, personne ne doit penser que ces terroristes islamistes sont représentatifs de la religion musulmane.
Oui, surtout que pour eux, je ne suis pas une musulmane pour eux.
Oui.
Parce que pour eux, nous sommes autant des mécréants que quelqu'un qui ne pratique pas la religion, puisque nous ne sommes pas des fanatiques.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est important ce que vous dites, parce que ailleurs, dans d'autres pays, les musulmans sont les premières victimes de ces terroristes. C'est eux qui sautent sur les bombes, c'est eux qui sont ciblés, c'est eux qui sont considérés comme des impurs parce qu'ils ne pratiquent pas la religion à la façon de ces terroristes.
Donc c'est pour ça que je dis que ces terroristes ne sont pas des musulmans, puisque la religion, ce qu'ils appliquent, n'a rien à voir avec le Coran. Donc à un moment, c'est juste des psychopathes et qui se permettent de tuer gratuitement au nom d'une religion. Ils ont trouvé un but.
Alors c'est vrai que dans ces terroristes, dans ceux qui étaient au Bataclan, il y en plusieurs étaient français et un était chauffeur de bus. Est-ce que ça vous fait
aussi, oui. On oublie aussi, c'est qu'on toujours on parle ces musulmans, mais ils sont français avant tout.
Ouais.
C'est-à-dire que là, je découvre que un de ces terroristes habite à 5 minutes de chez moi.
Ah ouais.
C'est grave. Là, mon mari, il est en état de choc. Il me dit, on va déménager. Parce que moi, j'ai toujours voulu habiter en 93 et j'y tiens parce que je veux qu'il y ait une mixité. Parce que si on part tous du 93, ben oui, il n'y aura plus de mixité. Déjà qu'il n'y a pas de mixité sociale. Maintenant, il n'y aura plus rien. Mais je trouve que là, de se dire que cette personne a vécu dans une famille normale, parce que c'est ça, on a regardé aux infos, c'est son profil. C'est pas une famille de fanatiques, c'est rien. Donc ça peut être n'importe qui. Donc maintenant, on va marcher dans la rue en se disant, mais n'importe qui peut se faire sauter. Là. Ça, c'est vrai, j'ai un peu peur en ce moment. Je ne vais pas vous le cacher.
Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est une vraie question. Est-ce que vous vivez dans cette peur-là? Et est-ce que vous avez changé un petit peu votre façon de vivre depuis les attentats de vendredi?
J'essaye de surmonter ça. Mmh. Parce que ce week-end, je serai à Paris. Je veux pas me rester cloîtrée chez moi. Mon mari ne veut pas aller à Paris en ce moment. Me dit pendant la COP21, parce qu'on est à 5 minutes de la COP21, faut pas rester ici. Ouais. Donc voilà, après, c'est-à-dire que j'essaye de le rassurer, j'essaye de lui dire, ben oui, mais malheureusement, si on arrête de vivre, ils ont gagné.
Ouais. Votre mari est musulman également ou il est catholique ?
Il est musulman, sa mère est catholique. Donc, ouais. Voilà, c'est aussi ça, le respect. C'est, voilà, on représente la diversité, on représente le vivre ensemble. La mamie respecte que ma petite fille soit musulmane. Voilà, c'est.
Ouais. Et lui ça. Semble avoir plus peur que vous. Donc lui, souhaite. Il y a des choses que vous avez changées. Il y a des choses que vous ne faites plus. Je ne sais pas. Les transports en commun.
On devait aller voir les décorations des grands magasins. Il m'a dit non, hors de question qu'on emmène les enfants là-bas.
Mmh. Bah oui, on comprend. S'il y a bien un endroit où effectivement on peut.
Mais si tu vas aller à Paris, pour l'instant, tu n'emmèneras pas les enfants.
Mmh.
Pour l'instant, pourquoi prendre ce risque, pour lui, les transports en commun pendant la COP21, il m'a dit non, tu prendras la voiture.
Kaïna, vous pouvez rester avec nous encore quelques minutes. Dans quelques instants, nous serons avec Mohamed Bouana Mkoubou. Bonjour Mohamed, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes aumônier musulman, imam à la prison notamment de Fleury-Mérogis. Vous restez avec nous dans quelques instants. Vous allez vous aussi nous donner votre point de vue sur ce qui s'est passé vendredi soir. Et puis bien sûr, vous qui nous écoutez, vous pouvez témoigner. Chacun a la parole aujourd'hui sur Sud Radio. Vous pouvez nous appeler au 0 826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, édition spéciale.
Et nous parlons de l'après 13 novembre, comment vivre après un événement traumatisant, c'est le thème de cette émission. Chaque jour, nous avons décidé cette semaine de vous donner la parole. On n'avait pas le cœur de parler d'autre chose que de ces événements et je pense que vous non plus, vous n'avez pas envie qu'on vous parle d'autre chose. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Nous sommes donc avec Kaïna qui nous a livré ce témoignage assez poignant d'une maman de deux enfants qui vit dans le 93, qui a été très touchée par ce qui s'est passé, évidemment, comme nous tous, et encore plus en tant que musulmane, puisqu'elle nous racontait qu'effectivement, les musulmans sont souvent pris pour cible. Et il y a souvent un amalgame de faits entre ces islamistes, ces actes terribles et le fait d'être musulman. Nous sommes avec Mohamed Bouana Mkoubou. Bonjour Mohamed, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes imam, vous êtes aumônier musulman, vous travaillez notamment à la prison de Fleury-Mérogis.
Oui.
Et effectivement, vous voulez absolument faire passer ce message-là, que les musulmans ne sont pas solidaires évidemment de ce qui s'est passé vendredi soir.
Bien. Tout d'abord, en tant qu'être humain et aumônier du culte musulman Fleury-Mérogis, j'adresse mes sincères et affectueuses condoléances aux familles des victimes. Oui. Je dois vous avouer que je suis très bouleversé, très ému de ce qui s'est passé le vendredi dernier au Bataclan et boulevard de Charonne. Dans notre religion, la vie est sacrée. Est sacrée. Malheureusement, il y a des faux musulmans. Parce que ceux qui font des attentats, qui suppriment des vies humaines, ce ne sont pas des musulmans. Ce sont pas ceux de faux musulmans, malheureusement. Donc, je suis très choqué, très ému, et je me suis rendu avec mon fils de 17 ans, le samedi, auprès du Bataclan,
ouais.
Le nord de Charonne.
C'est important, c'est important pour vous.
Pour se recueillir en faveur de ceux qui sont assassinés sauvagement. Mmh. Je dis bien sauvagement. Parce que, on a droit à la vie, on a droit à vivre. Hein, on n'a pas vraiment. J'ai dit qu'avec ce qui s'est passé, il faut lutter contre la peur. Il ne faut pas céder, il faut pas céder à la peur. Il faut continuer de vivre. Il faut continuer de vivre. On vaincra. Je crois, comme disaient les politiques, on vaincra. Mmh. Vous voyez?
Mais ne pas céder à la peur, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'effectivement, Kaina le disait à l'instant, et son mari le lui dit également, pas facile aujourd'hui de se dire qu'on va prendre le métro tranquillement, qu'on va aller voir les vitrines des grands magasins à Paris sans avoir peur, qu'on va aller... La Tour Eiffel a fermé d'ailleurs à nouveau aujourd'hui, elle avait rouvert hier, puis pour des raisons de sécurité, elle a refermé aujourd'hui. C'est vrai que on ne peut pas s'empêcher de se dire, et puis on n'arrête pas de nous dire que ça va recommencer, que on s'attend à un nouvel attentat dans les jours à venir. Donc comment faire pour ne pas vivre dans cette peur?
Je pense qu'il ne faut pas dire qu'on va attendre un nouvel attentat. On ne sait pas. On ne sait pas tout cela. Vous voyez, prenez un exemple de ce qui se passait aux États-Unis le 11 septembre.
Ouais.
Est-ce que les États-Unis savaient qu'il allait y avoir un attentat de ce genre? Personne ne savait. Personne ne sait. Seul Dieu, le seul qui sait.
Ouais.
Personne. En tant que commission, seul Dieu. Personne ne sait pas son destin. Vous, Isabelle, et moi, Bouana, on ne sait pas, personne ne sait pas son destin. Mais seul Dieu. Bien sûr, à partir du moment où on sait l'origine de ces attentats, ben, il faut lutter et battre le mal. Contre le mal.
Mohamed, je comprends absolument.
Il faut lutter contre le mal.
Mohamed, vous qui êtes l'aumônier de la prison de Fleury-Mérogis, on dit que c'est souvent en prison que ces hommes se radicalisent. Mm-hmm. Est-ce que vous qui vivez les choses de l'intérieur, vous avez ce sentiment-là aussi qu'à l'intérieur des prisons, il y a quelque chose à faire pour éviter qu'ils se radicalisent?
Ah oui, il y a beaucoup de choses à faire parce que d'une part, la prison, c'est vrai, j'ai toujours dit que la prison, ça détruit l'individu. Vous voyez?
Oui.
Je dis bien que la prison, s'il fait la prison, c'est qu'il faut qu'il paye pour la société. Parce qu'il a commis un délit.
Oui.
Vous voyez? Mais après la sortie des prisons, il faut absolument, comme j'ai toujours dit aux supérieurs, là, lorsqu'on se rencontre, il faut préparer la sortie de cet individu qui va sortir, qui a perdu son emploi, qui a perdu sa maison, qui a tout perdu. Moi, je pense qu'à partir de cela, on pourrait récupérer l'individu de ne pas être attrapé par certains assassins.
Comment ça se passe? Comment est-ce qu'ils les attrapent, comme vous dites, à l'intérieur de la prison? Vous avez pu observer ça?
Nous, en tant qu'aumôniers, on n'a pas le droit de les suivre à l'extérieur.
Oui, mais à l'intérieur de la prison, quand vous allez prêcher à l'intérieur de la prison, en tant qu'aumônier donc, de cette prison, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous les voyez se radicaliser?
Bon, on ne les voit pas. Vous savez, moi, je n'ai jamais prêché le mot radical. D'abord, je ne connais pas. Je n'ai jamais été instruit à ça. Parce qu'avant de devenir aumônier, je dois vous avouer que je fais une formation de 4 ans, c'est-à-dire à l'Institut Al-Ghazal de la Grande Mosquée de Paris pour la théologie musulmane et puis aussi à l'Institut universitaire de la rue d'Assas pour apprendre les religions, les institutions de la République française, les droits de l'homme.
Mmh.
Vous voyez? Donc on est formé. Pour intervenir à ça. Mais on n'est pas des imams qui sont pris ou débarqués. Non. Moi, je suis formé et diplômé à l'Institut universitaire de la rue d'Assas pour les religions, la laïcité, et je suis formé à la Sécurité de la Grande Mosquée de Paris. C'est la raison pour laquelle. Alors, ce que je les apprends, c'est de pouvoir vivre ensemble, que lorsque vous sortirez de la prison, retrouvez votre place dans la société.
Ouais. Alors, Mohamed, on est donc également avec Kaina. Kaina, effectivement, Mohamed condamne ce qui s'est passé vendredi soir, on s'en doute. Kaina, vous disiez donc que vous êtes de confession musulmane, vos enfants aussi. Est-ce que vous avez peur, quand vous habitez dans le 93, qu'un jour vos enfants soient attrapés, comme le disait Mohamed, et radicalisés? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète?
Je dirais pas jusque-là, je pense pas, ça m'inquiète pas. J'espère juste qu'il ne va pas nous arriver des grands malheurs, parce que je sais que c'est vrai que c'est facile de se faire embrigader si on n'a pas de repères familiaux, si il nous manque un père, une mère, ou si on a des problèmes à l'école, qu'on est complètement déscolarisé. C'est vrai que moi, j'en ai vu devenir, pas des terroristes, hein, mais devenir des fondamentalistes religieux. Mmh. C'est-à-dire des personnes qui, du jour au lendemain, ne font plus la bise. Des personnes qui étaient déscolarisées, qui n'avaient plus de lien de famille, il manquait un père dans cette maison. Il y a un contexte où sinon c'était une personne qui est carrément français, comme on dit, de souche, parce que moi j'en ai vu, on a tous grandi ici, qui du jour au lendemain se convertissent, alors qu'on peut se dire, il a tout, ses parents, sont des cadres, ils ont les moyens, mais il manque de repères. Alors à l'époque, il y avait peut-être des goûts, à l'époque il y avait d'autres choses, et autour de lui, il y a quoi ? Il se retrouve avec des amis, il commence à connaître une nouvelle culture, et puis, alors que ses copains ne sont pas du tout fondamentalistes, lui il va aller plus au bout.
C'est important ce que vous dites, Kaina, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Français de souche, comme on dit, hein, c'est-à-dire d'origine catholique, des personnes qui n'ont aucune origine musulmane, qui se radicalisent également, qui découvrent une nouvelle religion et qui partent s'entraîner en Syrie. C'est fou, ça aussi.
Moi, je peux vous dire que là où j'ai grandi, sur la majorité des filles, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, ça se compte sur le doigt d'une main, les filles qui portent une burqa, la majorité est des Français de souche convertis.
D'accord.
Parce que c'est souvent des gens qui veulent aller plus loin que les autres. Je ne sais pas pourquoi, mais ils veulent aller toujours plus loin. Donc c'est pour ça que c'est un problème où on se dit, porter une burqa, pour moi, c'est pas la religion musulmane. C'est pas ça. Une personne où je m'adresse à elle, je vois que ses yeux, même moi, j'ai peur. Je suis musulmane, j'ai peur si j'en croise dans la rue. Faut pas se mentir. Et après, c'est vrai que je sais que pour mes enfants, je m'inquiète. Mais voilà, j'essaierai. Je connais les signes, en fait. C'est juste de savoir un peu les signes, quoi qu'il arrive. Mais c'est malheureux, parce que c'est vrai que maintenant, dans les banlieues françaises, il n'y a plus de diversité sociale ni de diversité ethnique. On parlait de zones, je ne sais plus ce qu'il avait employé comme terme, le Premier ministre. Il avait des zones où. Mais c'est vrai, c'est des zones comme ça. Je veux dire, dans l'école de ma fille, elle est scolarisée à côté de chez son papy. C'est pas plus facile pour moi, mais j'ai grandi dans une cité, et donc c'est dans une école où, il n'y a que des Arabes et des Noirs. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais il n'y a aucune diversité. C'est malheureux. C'est malheureux. Mais c'est un autre problème, parce que pour moi, ces terroristes, c'est des psychopathes. Ils ont aucune excuse. C'est des fous. C'est vraiment des fous.
Kaina, nous avons également un auditeur, Johan. Bonjour Johan, bienvenue sur Sud Radio. Merci d'être avec nous cet après-midi.
Bonjour.
Oui, vous avez.
Oui,
vous
avez... Je voudrais rebondir un peu sur ce que vient de dire
Kaina.
L'auditrice, là. Oui,
Kaina,
voilà,
oui.
Bonjour.
Oui.
Je voudrais rebondir un peu. Je pense que c'est un peu compliqué pour tout le monde, etc. Je pense que les terroristes, ce qu'ils essayent de faire en ce moment, c'est de diviser. De semer le trouble, de semer la haine, Moi, j'ai connu, je suis français, de pure souche, je m'appelle Johan. J'ai un nom de famille que je ne divulguerai pas, mais qui est purement français aussi, j'ai eu énormément de difficultés, j'aurais pu aussi tomber, etc. Je pense que il faut pas faire d'amalgame. Je pense que ces gens-là viennent, on a une politique étrangère, etc. On peut remettre la faute sur, mais bon, ces gens-là, en attendant, dans notre propre pays, au sein de notre communauté, et notre communauté qui est diverse, qui est faite de gens blancs, de gens noirs, de gens, la France est une terre d'accueil. Notre devise est liberté, égalité, fraternité. Il faut pas l'oublier. Je pense qu'il faut la remettre en avant maintenant, aujourd'hui. Je pense que c'est super important. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez, Johan, de tout ce qui a été dit par Kaïna concernant le fait justement qu'il y a des amas.
Ouais. C'est totalement justifié, c'est une crainte, c'est une peur, c'est mais on est dans le pays de Voltaire, de voilà, il faut se lever, être fier, brandir notre liberté, notre différence qui fait nos différences, fait nos valeurs, fait que notre pays a avancé. Voilà, on est un pays très 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 ancien. Et enfin, je ne vais pas rebondir sur ce que a pu dire les Américains.
Le voilà. New York Times,
on est un
notamment.
Ouais. Très avancé et justement, on n'a pas besoin d'armes dans notre pays pour se défendre. Pour se défendre, on a juste besoin des mots et de nos valeurs. Et si les gens veulent aller plus loin que ça, eh ben, on ne peut pas aller plus loin que ça. Voilà,
Johan, est-ce que vous avez peur, vous aussi, suite à ce qui s'est passé vendredi ?
Oui, quelque part, un peu. J'ai une famille, quelque part, je l'avoue, j'ai un peu peur, mais je veux rester... Moi, mes convictions politiques sont... je suis anarchiste. Mmh. Hein, mes convictions politiques sont anarchistes, mais je resterai...
Qu'est-ce que ça veut dire, anarchiste ? Qu'est-ce que ça veut dire?
Mais anarchiste, ça veut dire que tout le monde est libre, justement. Mmh. Hein, l'anarchie, c'est la liberté. La liberté de chacun, etc., etc., etc. Et justement, je veux pas qu'on tombe dans des amalgames où on va faire des amalgames entre musulmans, non-musulmans, catholiques, poser un maximum de surveillance qui ne serviront à rien, puisque la preuve en est, hein, il y a des gens d'origine française qui peuvent, et puis n'importe qui, maintenant peut agir en regardant Internet, peut-être complètement manipulé dans son entourage par cette doctrine, et peut agir, donc je pense qu'il ne faut pas tomber dans un excès, au contraire, il faut prendre le problème à sa source, c'est-à-dire pourquoi cela existe. Je pense qu'en France, si ça existe, c'est parce qu'il y a un manque d'encadrement des jeunes, un manque de ces gens-là récupèrent des jeunes dans des cités ou etc. Ou même des jeunes de bonnes familles aussi, hein. Parce que il y a un manque il y a une trop grande il y a un manque d'encadrement quelque part, un manque de cohésion nationale, d'objectifs communs, des gens qui sont laissés sur le trottoir et qu'on n'explique pas pourquoi, etc. Et les gens se sentent lésés et du coup se tournent vers une religion extrême. Parce que faut pas oublier qu'ils se tournent vers une religion quelque part. Donc après c'est un extrémisme de la religion, mais ils se tournent vers une religion quelque part. Ça veut dire qu'ils se donc je pense qu'il faut réfléchir ensemble à tout ça, nous républicains, démocrates, et justement peuple français qui sommes les précurseurs de ce mouvement-là. Hein. Je pense que aujourd'hui il faut réfléchir ensemble à pourquoi et non aller taper sur des gens. Voilà, je pense que la bonne réponse c'est réfléchir pourquoi et réparer le problème à la base. Voilà.